Lorsqu'un neurologue compare la crise d'épilepsie à la crise que traverse notre société, c'est le travail original auquel se prête le chercheur Lionel Nakache dans un ouvrage iconoclaste qui paraît aux éditions Odile Jacob. La mécanique de notre cerveau en cas de crise d'épilepsie et la mécanique sociétale aujourd'hui présentent de grandes similitudes, celles en particulier d'un appauvrissement du contenu et d'une hypercommunication. Lionel Nakache est l'invité de la Tête au Carré dans un instant pour un entretien autour de son livre « L'homme raisonnable ». Vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé « la TAC ». Les grands mammifères se portent bien à Tchernobyl, c'est le constat étonnant d'une étude internationale, Axel Villard, et c'est à l'une de la science aujourd'hui.
Oui Mathieu, hein. Élan, cerf, chevreuil, sanglier et loup sont de nouveau abondants autour de la centrale, mais sont-ils en bonne santé? On en parle dans un instant avec vos questions sur Twitter.
Voilà pour le sommaire de cette Tête au Carré réalisée par Stéphanie Texier et qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Margot Dullard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Lionel Nakache.
Bonjour Mathieu Vidard.
L'homme raisonnable, en deux mots, du microcosme cérébral au macrocosme social, c'est donc le livre que vous publiez chez Odile Jacob. Un cerveau avec ses neurones, ça peut aider à comprendre comment fonctionnent les réseaux qui structurent la société?
J'ai eu l'impression, effectivement, dans ce livre, en fait, qui se veut un exercice de pensée par analogie, de tomber sur un point d'accroche, en tout cas, de similarité un peu générale, et qui m'a donné envie de tirer le fil de l'analogie et de voir jusqu'où on pouvait vraiment la rendre pertinente ou pas, et trouver ses limites.
Notre société serait en train de préparer une crise d'épilepsie à grande échelle?
En tout cas, je pense qu'elle présente certains symptômes qui pourraient s'accommoder à une sorte d'épilepsie du macrocosme, non pas du cerveau individuel, mais en même temps, dans le même temps, c'est pas un ouvrage du tout de vieille barbe, dans le sens où je pense que ce symptôme nous parle également du fait que c'est une société qui a une singularité. Cette singularité, c'est qu'on a une hypercommunication sur laquelle on va revenir. Et cette hypercommunication, pour le dire rapidement, on pourrait dire c'est pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Le pire, c'est évidemment cette épilepsie, mais le meilleur, c'est également une forme de conscience collective dont je crois nous n'avons jamais été si proches auparavant dans l'histoire des sociétés humaines.
Ouais, et dans le cas de figure où effectivement la société serait au bord de la crise d'épilepsie, vous avez quelques remèdes,
comme un super-héros, voilà. En tout cas quelques pistes. Et ce qui est amusant, c'est que la plupart de ces pistes, certaines peuvent être originales, mais certaines permettent surtout de retomber sur des solutions auxquelles on a déjà pensé auparavant, on n'a pas besoin de moi pour ça, mais simplement en observant ces solutions avec un prisme, avec un éclairage, un regard, une paire de lunettes, qui leur donne une pertinence encore différente.
Ouais. Et la crise d'épilepsie peut aider justement, pourquoi pas, à résoudre aussi, toujours autour de cette analogie, la crise que traverse la société. Voilà, absolument. C'est le thème de votre livre original. On en parle avec vous pendant cette Tête au Carré avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. Voilà, et comme pour faire écho, et c'est le hasard, au prix Nobel de littérature de Svetlana Alexievitch qui a écrit sur l'après Tchernobyl, eh bien, on apprenait cette semaine que la faune sauvage autour de la centrale se portait plutôt bien, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Sacha, combien de chevaux y a-t-il à Tchernobyl maintenant?
Aujourd'hui, 50 têtes à peu près, sans compter les jeunes de cette année.
Je pense que c'est un paradis ici pour les chevaux.
Voilà, une étude internationale parue lundi dans la revue Current Biology estime que la faune dans la zone interdite autour de la centrale de Tchernobyl se porte plutôt bien, quasiment aussi bien que dans les parcs naturels environnants, c'est-à-dire beaucoup mieux qu'avant l'accident en 1986. Bonjour Thierry Langagne.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en écologie comportementale au CNRS, au sein de l'Université Lyon 1. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Tchernobyl est devenu un paradis pour les grands mammifères?
Eh bien, le mot paradis n'est probablement le terme exact, car je pense qu'il faut faire la distinction entre des espèces qui sont présentes et qui redeviennent abondantes et des espèces qui sont en bonne santé, et c'est deux notions qui sont assez différentes.
Axel?
On parle de la bonne santé des animaux en les comptant par des observations aériennes, mais est-ce qu'on est certain de leur réelle bonne santé dans cette zone?
Non, pas du tout. En fait, on ne parle pas de bonne santé en comptant les animaux, mais simplement en comptant les animaux, on a accès à la quantité d'animaux qu'il y a sur la zone de Tchernobyl. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'animaux qu'ils sont en bonne santé. On sait en biologie qu'il y a des populations qu'on appelle les populations puits, où les animaux viennent dans une zone parce qu'il y a moins de contraintes, et en particulier moins de contraintes liées à l'activité humaine comme la chasse ou l'agriculture. Mais ils viennent aussi dans une zone qui a d'autres contraintes comme par exemple des niveaux de radiation élevés. Et dans ces zones-là, les animaux vont y venir, donc on va les compter de plus en plus nombreux, mais ils y viennent en quelque sorte pour y mourir, quoi.
Alors donc on parle des grands mammifères, les élans, les cerfs, les chevreuils, les sangliers, les loups, donc qui seraient de nouveau abondants. Ils sont mentionnés dans cette étude parce que ce sont les plus faciles justement à repérer, Thierry Langagne.
Oui, ils sont faciles à repérer, ils sont d'autant plus faciles à repérer qu'on a des techniques scientifiques qui permettent d'effectuer des comptages soit par les airs via hélicoptère ou soit par la route, et qui sont des techniques qui permettent d'avoir une très bonne répétabilité de l'information. Donc c'est assez précis comme méthode.
Quels sont les effets connus des radiations 30 ans après sur des espèces qui tentent de s'installer comme ça dans des régions contaminées ?
Ah ben, les effets des radiations sont très importants, puisque si on peut les voir à différentes échelles, il y a des effets au niveau des écosystèmes, puisqu'on sait que les radiations provoquent des modifications de la végétation et donc des capacités que vont avoir les animaux à se nourrir derrière. Il y a des effets au niveau de l'organisme sur le comportement même des animaux. Et moi, j'étudie particulièrement les comportements liés à la reproduction, comme les systèmes de communication. Il y a également des effets à un niveau intra-individuel, cette fois-ci, sur la physiologie des animaux, en particulier ce qu'on appelle le stress oxydant. Et il y a même des effets au niveau intracellulaire sur la génétique, avec des mutations qui sont liées aux mutations. Donc on a une cascade d'effets qui vont de l'écosystème à l'ADN, en fait.
Alors Axel, vous avez discuté ce matin avec le réalisateur Luc Riolon, qu'on avait reçu dans l'émission et qui avait filmé ces animaux en 2009 pour son film Tchernobyl, une histoire naturelle.
Et vous allez l'entendre, il n'a pas été complètement surpris par ces nouveaux résultats.
Je suis ravi que ça confirme ce que moi je racontais dans mon film à l'époque. Certains scientifiques avec qui j'avais travaillé disaient qu'effectivement, c'était pas les radiations qui étaient les pires à Tchernobyl, bien qu'on puisse pas dire que ce soit bon pour la santé, c'est sûr. Mais en l'occurrence, il était clair, et c'était la conclusion de mon film, que le pire dans tout ça, c'était en fait la pression de l'agriculture, puisqu'à l'époque, les soviétiques utilisaient beaucoup de l'engrais, de pesticides, etc. Donc, c'était très très mauvais pour la population et la biodiversité. Et deuxièmement, il y avait beaucoup beaucoup de cultures de forêt. Ils avaient poussé un seul arbre, et donc très très peu de biodiversité. Quand les hommes sont partis, ça a permis effectivement de redonner la place à la nature, sans l'homme.
Ces travaux sont internationaux, là, publiés dans une revue américaine. Il y a une raison scientifique pour laquelle l'information arrive en deux temps, comme ça ?
Et moi, quand j'ai fait mon tournage, il y avait déjà des publications, mais qui n'existaient qu'en russe. Et le scientifique avec qui je travaillais, Sergei Gachak, m'avait montré ces publications en me montrant les tableaux avec le comptage des mammifères dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et il me disait, mais je comprends pas, quand je les montre à mes collègues américains, ils n'en tiennent absolument pas compte parce qu'ils considèrent que ça n'existait pas et que ces études faites par à l'époque de l'Union soviétique et donc par des Russes, des Bélarusses et des Ukrainiens ne valent rien en fait, tout simplement parce qu'elles sont en russe et qu'elles n'ont jamais été traduites.
Qu'est-ce qui vous avait le plus marqué en observant longuement cette faune ?
Alors moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'étude de Robert Becker, donc un généticien de la Texas Tech Université, donc au Texas, qui avait étudié la résistance des souris, dont des petits mammifères très semblables à l'homme, hein, puisqu'on a quasiment le même patrimoine génétique, la résistance aux très fortes radiations, puisque ces souris les a étudiées très très proches du réacteur nucléaire, donc là dans une zone qui est en fait très irradiée, et ces souris en fait ont développé des défenses immunitaires qui leur permettent de lutter contre les dégâts liés à la radioactivité, c'est-à-dire le découpage en petits morceaux des molécules et donc des gènes. Et ces souris ont réactivé des gènes qui étaient endormis et qui permettent de se défendre contre les effets de la radioactivité et donc de survivre. Donc elles étaient en très très bonne santé.
Le réalisateur, donc Luc Riolon, Thierry Langagne, ces mécanismes de défense contre les radiations, la science les connaît bien aujourd'hui ?
Non, pas du tout. C'est des mécanismes qui sont encore probablement largement inconnus. Et il est certain que des catastrophes comme Tchernobyl ou plus récemment Fukushima, même s'il faut bien savoir que ce sont des catastrophes en termes humains et en termes économiques, ça peut aussi être des portes ouvertes pour la science et pour les études, pour comprendre justement les phénomènes de résilience des espèces et comment est-ce que certaines espèces peuvent parfois s'adapter à certains types de radiations.
Et Thierry Langagne, justement, vous avez travaillé autour de la centrale de Fukushima en 2013. Est-ce que la situation pour la faune est comparable entre les deux villes, Fukushima et Tchernobyl ?
Ça, c'est un petit peu difficile à dire, puisque donc forcément, il y a eu quasiment 30 ans entre les deux catastrophes. Et simplement, à l'époque de Tchernobyl, c'était l'époque de l'URSS, il était très difficile pour les chercheurs d'aller sur place rapidement pour voir les effets au fur et à mesure et avoir une dynamique de l'observation, alors que lorsque la catastrophe est arrivée au Japon, qui est un pays démocratique, il a été possible assez rapidement pour des chercheurs de se rendre sur place et on aura une meilleure connaissance de cette dynamique liée à la catastrophe et l'impact de cette catastrophe sur la biodiversité.
Il y a un autre point que cette publication soulève, c'est que dès que l'homme s'éclipse, la nature revient, peu importe le danger en fait.
Alors c'est peut-être pas peu importe le danger, mais clairement, ça montre bien, en tous les cas ça suggère fortement que l'homme et l'action de l'homme, que ce soit via les milieux agricoles, l'agriculture intensive ou via la chasse, c'est-à-dire une action encore plus directe sur la biodiversité, ça montre bien ou ça suggère fortement que cette action de l'homme, elle est très forte, puisque dès qu'on la relâche, eh bien, les animaux sont capables de revenir, même si c'est sur des environnements qui ont d'autres contraintes, comme les radiations.
En tout cas, merci beaucoup Thierry Dangagne. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur ces thèmes très riches, on peut citer un colloque en région Rhône-Alpes, agriculture et biodiversité, qui est organisé par la LPO Rhône-Alpes. Ça se passera au lycée agricole du Valentin dans la Drôme les 26 et 27 octobre prochains. Merci beaucoup à vous pour vos explications.
Merci à vous.
Bonne journée. Axel, merci. Puis on rappelle bien sûr qu'on peut réécouter cette Une de la Science comme tous les jours.
Comme toutes les Unes, tous les jours, un podcast en plus du dossier sur le site franceinter.fr.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une bonne nouvelle pour l'Afrique de l'Ouest qui vient de terminer sa première semaine sans nouveau cas d'Ebola depuis le début de l'épidémie en mars 2014. Ebola qui a déjà fait 11 312 morts. Les trois pays les plus touchés par la maladie, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, viennent donc de vivre cette première semaine de trêve. Il faudra encore attendre 42 jours son nouveau cas d'Ebola pour déclarer la fin totale de l'épidémie. Le géant américain de l'agroalimentaire ébranlé, le très critiqué Monsanto, a vu ses bénéfices chuter de 15,5% en un an au cours de son dernier exercice fiscal. Affecté par la chute des prix des produits agricoles, le roi des semences transgéniques a annoncé la suppression de 2600 emplois dans les 18 à 24 mois prochains. Et puis pour terminer, la fête de la science qui a commencé hier, cette édition 2015 met à l'honneur la lumière, mais également le climat, à moins de deux mois de la COP21. Des centaines d'animations partout en France vont s'enchaîner jusqu'au 11 octobre pour mieux comprendre la science et ses enjeux. Pour plus d'informations sur les événements et les lieux de rendez-vous, vous pouvez faire un tour sur fêtedelascience.fr. Il y a forcément des événements près de chez vous. Le neurologue Lionel Lacache, l'invité du dossier dans un instant. Different times to follow through, do you attach your love to your head before it starts? Stay hot, give it away. Attach your head to your heart before it strays. Steal your heart, give it away. Attach your head to your heart before it strays. Steal your heart, give it away. Attach your head to your heart.
Attach your head to your heart before it strays.
Give It Away, The Shoes sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La tête au carré, jusqu'à 15h sur France Inter.
Le fonctionnement de notre cerveau, celui de la société, une analogie au cœur d'un ouvrage, L'homme raisonnable, en deux mots. C'est donc le titre de ce livre publié chez Odile Jacob et son auteur. Le neurologue et chercheur Lionel Nakache est notre invité. Vous pouvez nous rejoindre déjà avec vos messages et vos questions. Franceinter.fr et le mot-clé, la TAC. Lionel Nakache, vous êtes professeur de médecine à la Pitié-Salpêtrière et directeur de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et donc, dans ce livre, on le disait tout à l'heure, vous proposez une analogie entre l'architecture fonctionnelle des réseaux de neurones, donc qui composent un cerveau, et puis également les réseaux qui structurent les sociétés humaines à travers les crises que traverse le cerveau comme la société, la crise d'épilepsie en particulier. Donc là, c'est un apport original que vous proposez dans ce livre, et c'est vrai qu'on n'attend pas forcément un chercheur dans ce registre qui est presque plus proche de la philosophie que de la science.
Que de la science, vous avez raison. En fait, l'exercice est de ce point de vue-là est peut-être intéressant, c'est-à-dire qu'évidemment, comme chercheur, vous n'en êtes pas moins un être humain, vous partez en vacances, vous voyagez, etc. Mm-hmm. Donc vous êtes aussi un sujet de la société, un acteur, un individu, une des pièces élémentaires de la société. Et donc, vous ne pouvez pas manquer d'avoir des pensées par analogie, des rapprochements que vous pouvez faire entre des choses que vous vivez comme citoyen, mm-hmm. ou comme sujet du monde, disons, et puis comme votre expertise qui, en ce qui me concerne, touche le cerveau. Et c'est vrai que alors, chacun d'entre nous, dans la vie de tous les jours, on pense tous par analogie, des analogies plus ou moins évidentes, plus ou moins explicites comme analogie. Mais là, cette aventure a commencé comme ça, en fait.
Ouais. Est-ce qu'au fond, vous ne prenez pas une place laissée aujourd'hui vacante par, en tout cas c'est ce qu'on dit, par les philosophes, précisément?
Alors, vacante, je ne pense pas, mais je pense qu'à chaque époque, la philosophie a besoin, pour se ressourcer, d'être capable non seulement de maîtriser son propre champ de connaissances, qui est un champ que je ne maîtrise pas, je ne suis pas philosophe, mais également, cela étant fait, d'être capable d'ouvrir les yeux sur les singularités contemporaines. Oui. Alors, heureusement, il y a beaucoup de philosophes actuellement qui le font aussi, et je pense que le domaine dans lequel je travaille, qui est celui des neurosciences, de plus en plus, ça devient un des domaines incontournables pour la philosophie. Donc, je ne dirais pas que c'est un domaine qui a vocation à supprimer, c'est pas du tout la façon de laquelle je réfléchis. Mmh. Et d'ailleurs, je me suis livré à l'exercice avec des philosophes il n'y a pas très longtemps, dans la revue Cité de philosophie, et puis régulièrement avec d'autres collègues. Je pense, au contraire, que ces échanges sont très importants. On a besoin de philosophes, mais de philosophes qui soient, disons, neuro-informés.
Oui, voilà,
c'est ça. C'est très important. Et ça, c'est pas toujours évident.
Voilà. Et le cerveau étant le siège de la pensée, ça paraît tout à fait normal que les philosophes travaillent main dans la main avec les neurologues.
Oui, on pourrait dire ça. Ouais. Ouais.
Et c'est vrai que c'est aussi très significatif de la transdisciplinarité aujourd'hui qui prévaut dans vos instituts, par
exemple.
Absolument,
absolument. Donc la transdisciplinarité, je pense que c'est là aussi un sujet très intéressant parce qu'il est à deux facettes. Il devient incontournable, on ne peut pas faire de recherche non multidisciplinaire, mais pour autant, je pense que la vraie multidisciplinarité, c'est un exercice qui est hautement périlleux et qui expose à de nombreux risques, en fait.
Lesquels?
Lesquels, c'est d'abord, quand vous essayez de croiser différents savoirs, vous risquez de mal connaître chacun des savoirs, mm-hmm. donc de finir avec une sorte d'intersection qui est une peau de chagrin mm-hmm. assez pauvre. Vous risquez également avec vos interlocuteurs, si vous n'avez pas vraiment travaillé correctement avec eux, de travailler sur un malentendu. Chacun associe au mot commun une idée totalement différente et vous finissez avec un malentendu qui, en réalité, n'est pas productif. Et troisième aussi écueil, c'est que vous pouvez finir par enfoncer des portes ouvertes. Ça veut dire d'avoir l'impression de faire du nouveau, alors qu'en fait, que vous ne tournez en rond dans une sorte d'enclos extrêmement restreint, parce que l'avantage d'une recherche qui n'est pas multidisciplinaire, c'est que vous pouvez aller dans les subtilités d'une science, d'une science, disons, unique. Et donc, vous pouvez arriver dans une richesse, et là, vous pouvez vous frotter avec des choses qui sont nouvelles. Donc, d'arriver à faire du nouveau, du très précis, mais en croisant des savoirs, pour moi, c'est quelque chose qui est incontournable. On est obligé de le faire, mais c'est extrêmement difficile à faire.
Ouais. Et ces écueils, d'ailleurs, ils sont valables aussi pour vous dans cet exercice de pensée que vous proposez dans cet ouvrage, autour précisément de cette analogie. Parce que vous dites, c'est bien beau de proposer une analogie, mais il faut aller plus loin que ça et voir si véritablement, en tout cas, c'est
si elle fait sens,
si on peut la valider.
Si elle nous aide à penser, en fait, si elle nous aide vraiment à penser de manière nouvelle et originale les choses, et en sachant aussi qu'une analogie, ce n'est jamais une démonstration. Mmh. Et le risque principal, il y a un chapitre qui est dédié à cette réflexion, c'est qu'un des risques principaux de l'analogie, sinon le risque principal, c'est d'oublier tellement l'analogie vous séduit, que ce n'est qu'une analogie et non pas une identification ou une démonstration. Ouais. Et dès que vous oubliez ça, vous tombez dans une situation à haut risque sous différents aspects.
Bon, en tout cas, vous avez été vigilant, visiblement.
J'ai essayé, en tout cas, il y a peut-être des zones aveugles que je n'ai pas vues, mais j'ai essayé de manière la plus honnête possible d'éclairer également les limites de l'exercice.
Ouais, vous faites donc cette proposition dans l'homme raisonnable. Alors en deux mots, parce que...
Ou en tout cas un mot avec un trait de liaison.
Exactement, voilà, raisonnable.
Réseau écrit comme un réseau, comme un network, en anglais un network, un réseau, et avec le nable du coup qui est une sorte d'anglicisme pour able to, quoi, un homme qui est apte à vivre en réseau.
Ouais.
Et qui est évidemment, la question c'est, nous vivons en réseau humain, Mais est-ce qu'on peut le faire sans perdre notre raison, cette fois-ci RAI, c'est-à-dire garder notre singularité, notre capacité à réfléchir et ne pas nous perdre dans la masse, quoi,
en fait. Et c'est la conclusion de votre livre, c'est la question posée à la fin du livre, justement. Est-ce que les hommes raisonnables pourront être vraiment raisonnables? Vous avez eu l'idée de cette comparaison, cette analogie entre l'épilepsie, donc la crise d'épilepsie. Oui. On va y revenir parce que c'est vraiment assez troublant d'ailleurs, hein, les similitudes, hein, qu'on peut établir entre les deux. Et cette crise que traverse la société aujourd'hui, cette crise d'épilepsie mondiale, en tout cas, ce qui laisse présager à une crise d'épilepsie.
Oui, en fait, ça a commencé vraiment par un symptôme, on pourrait dire. Alors peut-être que ça vaut la peine de raconter rapidement les circonstances qui peuvent permettre à nos auditeurs de bien se représenter également ce dont il s'agit. Je me promenais, j'étais en vacances, j'étais avec ma femme, on se promenait sur un bord de plage. Un bord de plage, mais une plage hautement urbanisée, disons, qui avait fait l'attention d'efforts de paysagistes urbains, etc., avec des bosquets de palmiers, des rochers savamment posés, disposés, des cafés, des machines de sport.
Vous pouvez dire où c'est?
Ah ben, je vais le dire. C'était une plage, mais justement, c'est ça l'enjeu. C'est une plage qui se situait au nord de Tel Aviv. Ouais. On se promenait. Alors, comme c'était un moment très singulier, nous étions très contents tous les deux d'être là, sans nos enfants, on se disait, bon, c'est un moment sympathique, très singulier, mais pour autant, il y a eu un contraste entre la singularité du moment vécu à deux et l'absence totale de singularité du lieu, parce qu'on réalisait qu'en fait, l'endroit où nous nous trouvions, lui-même ne portait aucune signature évidente de sa géographie. Nous pouvions nous trouver aussi bien sur la côte atlantique du Maroc, en Floride, dans le sud de la France, à 1000 endroits différents, qui sont tous à peu près les mêmes. Et ça, c'est un sentiment que je crois chacun d'entre nous a fait l'expérience, même autrement que sur une plage. Mm-hmm. Et donc, le point de départ, c'était ça. C'était en réalité, il y a une sorte de paradoxe. C'est qu'il n'a jamais été aussi simple pour nous de nous déplacer d'un bout du globe à un autre, physiquement, très rapidement, peu cher, en tout cas moins cher qu'avant, moins de risques qu'avant, donc une sorte de facilité à voyager, mais pour autant, au bout du voyage, il n'y a pas de voyage. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas vraiment fait de déplacement, j'appelle ça le paradoxe du voyage immobile. Et quand nous discutions tous les deux de ce paradoxe-là, que nous étions en train de le formuler, la première chose qui m'est vraiment tombée dessus, c'est-à-dire, mais moi, du côté du microcosme du cerveau, je connais ça. Ouais. Quand dans un cerveau, des régions qui sont séparées, qui sont distantes les unes des autres, se mettent à trop communiquer plus que de raison, et bien en général, leur communication, leur excès de communication s'accompagne de deux autres propriétés. La première, c'est que cette communication devient très appauvrie, le message est très pauvre, et ces régions, en communiquant trop de manière appauvrie, perdent totalement leurs différences respectives, donc elles deviennent des lieux indifférenciés qui sont toutes des sortes de clones du même lieu. Et ça, c'est ce qui se passe dans la crise d'épilepsie.
Oui.
Donc le point de départ, c'est ça. Ah, est-ce que nous sommes en train d'isoler un symptôme qui pourrait être un symptôme de la version macrocosmique de l'épilepsie?
Voilà, donc là c'est Eureka, illumination sur la plage
de Tel Aviv. Voilà, de se dire, est-ce que là il y a une analogie qui vaut la peine de tirer le fil? Est-ce qu'elle n'est séduisante que par sa surface ou est-ce qu'elle contient quelque chose de plus profond?
Et cette idée, cette image en tout cas du voyage immobile était évoquée par Marguerite Duras au micro, s'il vous plaît, de Michel Drucker.
On voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en 8 jours ou 15 jours, pourquoi le faire? Dans le voyage, il y a le temps du voyage. C'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Vivre du voyage, ça ne sera plus possible.
Voilà, 1985, Marguerite Duras, l'accélération inédite justement des échanges, et pourtant cet appauvrissement au fond de la singularité.
Absolument, et je trouve ça très émouvant d'entendre la voix de Marguerite Duras, et que je cite précisément.
Oui,
dans,
oui, oui.
Et parce qu'en plus, Marguerite Duras insistait là-dessus sur quelque chose de très profond, qui est la nécessité du temps vécu pour l'expérience subjective du dépaysement. Et ça, c'est absolument vrai. Mais le point que j'isole est encore un point différent, c'est qu'il s'agit de dire que le monde lui-même, objectivement, le lieu lui-même est dupliqué. C'est pas simplement que l'expérience du voyageur va faire l'économie d'un voyage, mais que l'apparence physique du monde, indépendamment même du voyageur, va faire l'objet d'une sorte de perte de différenciation et d'appauvrissement global du lieu, en fait.
Alors Larry sur franceinter.fr nous dit ceci, le paradoxe du voyage immobile, c'est une expression intéressante, mais parcourir durant des heures Google Terre n'est pas voyager, c'est au mieux présenter un fort intérêt pour la géographie.
Alors Larry a raison, mais je suis d'une certaine façon d'accord avec Larry, parce que ce dont je parle, ce n'est pas le voyage sur Google Terre, c'est le vrai voyage.
Ouais.
Le déplacement, ou lorsque dans une expérience commune, quand vous allez dans dans un centre-ville et que vous avez une duplication de toutes les mêmes enseignes dans tout le monde occidental ou post-industriel et que vous ne savez pas vraiment où vous êtes, quand vous avez des codes de communication, des codes de vente, ce n'est pas seulement les lieux, c'est en fait la signature humaine des lieux qui se standardise de plus en plus. Eh bien ça, évidemment, alors on peut appeler ça la mondialisation. Il y a différentes façons d'observer ce phénomène. Mais le fait de se dire qu'en réalité, quand on va quelque part, ça devient de plus en plus difficile d'isoler une singularité du lieu dont on pourra parler à nos proches ou ramener quelque chose qui soit singulier, eh bien ça fait partie de ce même symptôme.
Oui. Alors vous parlez d'un trouble assez étonnant, assez rare visiblement. Oui. C'est un trouble neuropsychologique qui porte le nom de paramnésie réduplicative. Oui. Quel est ce trouble, Lionel Nakache ?
Alors c'est un trouble qui est assez, heureusement assez rare, mais assez stupéfiant lorsqu'on rencontre des patients qui en sont frappés. Alors le côté jargonesque médical, paramnésie réduplicative, mnésie c'est la mémoire, paramnésie donc c'est quelque chose qui se trouve à côté de la mémoire, et on veut dire par là qu'il y a une force de déformation un peu mnésique, et réduplicative c'est que ça nous parle des lieux et d'une duplication des lieux. Alors ça veut dire quoi en vrai ? Ouais. Je peux vous raconter l'histoire d'un patient il y a quelques années. Il y a un patient qui était venu à la Salpêtrière, qui avait eu une lésion cérébrale par une chirurgie très invasive qui avait été réalisée à l'étranger. Et ce patient allait relativement bien, on va dire, sauf qu'il avait la conviction absolument inébranlable qu'il se trouvait dans la ville de Montréal, et en sachant qu'il y avait deux villes de Montréal. La ville de Montréal, du Canada, mais qu'ici, on était aussi dans la ville de Montréal. Et de manière, je donne juste un exemple, mais qui était frappant, c'est que ce patient qui avait tout, par ailleurs, beaucoup de facultés, une grande subtilité, un sens de l'humour, un sens du raisonnement, par ailleurs, qui était relativement bien préservé, était capable, sans que je lui pose la question, d'identifier que, vous savez, les draps jaunes de l'assistance publique, qui a marqué Assistance publique des hôpitaux de Paris. Et il m'avait dit spontanément, sans que je le confronte à cet élément d'apparence contradictoire avec sa croyance subjective, dire, vous savez, j'ai bien remarqué qu'il y a marqué sur mon drap, il montrait son drap, Assistance publique des hôpitaux de Paris. Mais c'est normal, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris, de Montréal.
Ouais.
Et donc, la croyance que le même lieu est dupliqué à l'identique. Alors, pourquoi je parle de ce syndrome ? Parce que ce que nous voyons parfois chez des patients, dans leurs croyances subjectives, je trouvais ça étonnant que, d'une certaine manière, certains des aspects du monde physique que nous construisons s'apparentent au monde subjectivement vécu par de tels patients. C'est-à-dire un monde qui est rempli d'éléments qui se rédupliquent à l'infini.
Donc à l'échelle de nos sociétés, ça peut fonctionner aussi, en tout cas.
En tout cas, c'est une autre facette d'un autre symptôme. Et ça, je citais ce syndrome, pas seulement pour le présenter, mais pour m'interroger sur les raisons. Non pas sur le comment de cette épilepsie, mais sur le pourquoi.
Ouais.
Et je pense que cette réduplication contient elle-même plusieurs éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi est-ce que l'homme reconstruit à l'identique quelque chose ailleurs. Et très rapidement, je pense qu'il y a d'abord une sorte de facilité. C'est plus facile de construire quelque chose dont on a déjà le modèle. Deuxièmement, c'est une façon d'injecter du familier dans de l'étranger. Quand vous vous trouvez dans un lieu qui n'est pas le vôtre et que vous construisez un lieu qui ressemble au vôtre, vous vous familiarisez avec le lieu. Et il y a une dimension politique aussi, c'est que je pense que quand ce lieu est habité ou qu'il est convoité par d'autres peuples également, eh bien, c'est une façon de se l'approprier. Et l'histoire de la colonisation européenne, par exemple, sous plein d'aspects, est fascinante parce que quand vous vous rendez compte que tout commence par un exercice nominaliste, on découvre des lieux dans des continents qui nous sont totalement étrangers, et la première chose que l'on fait, c'est qu'on les baptise de noms qui nous renvoient à Nouvelle-Angleterre, la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-France, la Nouvelle-Calédonie, etc. Et donc, je visite dans cette partie de l'ouvrage certaines des motivations peut-être qui sont à l'œuvre dans cette construction d'un monde répliqué.
On va revenir donc sur ce parallèle, cette analogie entre la crise d'épilepsie et la crise mondiale, parce que là aussi, il y a vraiment des points communs très troublants. Juste un mot, il a été guéri ce patient ou pas ?
Écoutez, il n'a pas vraiment récupéré de cette paramnésie réduplicative, mais par contre, d'autres aspects que je n'ai pas développés là, il a pu récupérer partiellement, faire de la rééducation en réalité.
Allez, on se retrouve dans un instant, Lionel Nakache, pour la suite de notre discussion, juste après Mini, 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 et c'est Jacques Dutronc.
Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moc et mini jupe. Mini moche et Lilliput. Il est mini docteur Schweitzer. Mini, mini, ça manque d'air. Mini jupe et mini moque. Miniature de quoi je me moque. Ministère et terminus. Minimum et minibus. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini moque et mini jupe, mini moche et Lilliput. Il est mini docteur Schweitzer, mini, mini, ça manque d'air. Mini, 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 mini. je préfère les maxi, maxi moque et maxi jupe. Maxi moche et maxi pute, il est maxi docteur Schweitzer. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus. Maxi terre et terre maxus. Maximum et maxibus.
Et Jacques Dutronc à l'instant sur France Inter.
La tête.
La prise de conscience correspond à un changement très important dans le traitement de l'information dans le cerveau.
Au carré.
L'activité électrique s'embrase, un réseau particulier qui concerne les aires supérieures va s'allumer de façon synchrone et toutes ces aires vont être en dialogue.
Sur France Inter.
Et elles codent toutes pour le même objet mental.
L'embrasement du cerveau, Lionel Nakache, l'homme raisonnable, du microcosme cérébral au macrocosme social, c'est chez Odile Jacob. Il fait combien votre livre? 138 pages.
Ah, hein. Peut-être, oui, oui.
C'est pour rassurer ceux qui seraient peut-être un petit peu effrayés par son titre.
Oui, c'est ça. Il est dense, mais il est court.
Voilà, absolument. Pour parler justement d'un des défis éthiques les plus importants pour vous, en tout cas, à l'échelle mondiale, l'un des plus urgents à relever.
Absolument, oui, c'est que effectivement il y a des crises que nous traversons comme société, comme citoyens, et malheureusement nous sommes dans une période où l'énumération quasiment quotidienne des différentes facettes de cette crise, des crises humanitaires, des crises de conflits, des crises économiques, des crises sociales, des crises culturelles, toutes ces crises-là sont présentes, et je pense que comme à chaque époque, elles attendent de notre part de trouver ou non des solutions nouvelles, pour arriver à vivre avec, à les résoudre, à comprendre leur signification et à pouvoir aller au-delà des contraintes qu'elles peuvent nous imposer.
Ouais. Ouais. D'où l'analogie neurologique, peut-être.
D'où l'analogie neurologique, et puis ce qui est troublant.
Clé,
mais oui, mais j'espère. En tout cas, c'est ma contribution, la seule que je puisse réellement, comme citoyen aussi, produire. Et je me suis rendu compte aussi que dès lors que l'on se pose la question du passage de l'individu au groupe, sous l'angle de la conscience, eh bien moi, depuis 20 ans, je m'intéresse à la conscience de l'individu, la conscience subjective. Comment est-ce qu'on est conscient? Comment prenons-nous conscience? Et on entendait la voix de mon ami, maître et collègue, mon compère Stanislas Dehaene, avec qui je travaille toujours de manière extrêmement jubilatoire ensemble depuis des années. Eh bien, on s'intéresse beaucoup à l'aspect individuel. Et je me suis rendu compte que là, quand on pousse l'analogie vers le social, vers le groupe, nécessairement, à de multiples facettes, on passe de la conscience phénoménale, la conscience de soi, disons, à une question de conscience collective qui introduit des questions d'éthique et voire de morale au sens non galvaudé du terme. Donc c'est un livre d'une certaine façon politique, au sens où il y a une dimension éthique très forte.
De conscience et d'inconscience aussi, hein, parce
absolument.
Que c'est le thème du livre. Vous l'évoquez évidemment, on va en parler avec vous dans un instant. Stanislas Dehaene, justement, on parlait de l'embrasement du système électrique dans le cerveau.
On peut en dire un mot, c'est qu'en fait, peut-être même comme message un peu de repère qui peut être intéressant, c'est que dans un cerveau, vous avez plusieurs régions. Chacune de ces régions, vous avez des millions de neurones. Et ces neurones, on va en dire un mot, ils sont en permanence en activité. Maintenant, le point qui est très intéressant, c'est la communication entre ces différentes régions et entre ces différents neurones, entre différents réseaux de neurones. Et on pourrait dire que le point vraiment fascinant, c'est que pour être conscient, c'est-à-dire être capable non seulement d'agir sur le monde, mais d'avoir une distance critique sur ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, là, je vous parle, je bouge mes mains, mon visage s'anime, mais je peux à tout moment avoir un regard subjectif sur ce que je suis en train de faire, et donc le changer, changer d'opinion, changer d'avis, changer de croyance, changer de stratégie. Donc c'est ça un peu la conscience de soi. Eh bien, pour être conscient, il faut que ces régions communiquent entre elles, mais si elles communiquent pas assez, on est dans des états d'inconscience, et l'état le plus classique, c'est soit l'état végétatif, soit la crise d'épilepsie.
Alors
justement,
c'est ça.
Alors, la crise d'épilepsie, à l'inverse, quand il y a un excès de communication, je répète ce point-là, quand ces régions ne communiquent pas assez, on n'est pas conscient, et c'est un peu ce qu'on voit dans les états végétatifs, par exemple, on peut être éveillé, avoir des automatismes, mais ne pas être conscient. Quand il y a un surcroît, une hypercommunication avec cette réduction, on est dans l'épilepsie, et là aussi, on perd conscience. Mmh. Et donc, la conscience nécessite une sorte de juste balance, vraiment d'équilibre assez subtil. Il ne faut pas qu'il y ait un excès de communication ni un défaut. Donc, quelque part, entre le non-voyage et le voyage immobile dans le cerveau.
Oui. Et justement, l'excès de communication, ça engendre un appauvrissement de cette conscience.
Exactement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que chaque neurone, vous savez, est connecté à environ 10 000 neurones. Et puis, donc, il a à chaque instant, un neurone est soit au repos, soit activé. Donc, il y a un état binaire pour un neurone. Quand il est au repos, ben, il ne communique pas. Et quand il est activé, Il envoie, disons, avec ses 10 000 connexions, à peu près, hein, c'est un chiffre moyen, des messages qui peuvent être soit excitateurs, donc qui vont exciter des neurones, donc essayer de les sortir de leur torpeur, ou bien inhibiteurs pour les conduire à être au repos. Et donc il faut imaginer qu'à chaque instant, les 100 milliards de neurones à peu près qui sont dans notre cerveau sont chacun d'entre eux connectés avec 10 000 voisins, et à chacun d'entre eux, en temps réel, ils intègrent tout ce qu'ils reçoivent comme information, une sorte de scrutin permanent qui va décider à chaque instant, est-ce que ce neurone va rester au repos ou est-ce qu'il va s'activer. Et s'il s'active, à son tour, donc vous avez ces scrutins permanents dans le cerveau et qui vont réguler le niveau de communication entre les régions cérébrales. Et dans l'épilepsie, ce qui se passe, c'est que pour des raisons différentes, dont nous connaissons certaines d'entre elles, hein, ça reste encore une maladie qu'on sait guérir, heureusement, qu'on sait soigner, mais dont on ne comprend pas parfaitement encore le mécanisme, donc il y a beaucoup de science à faire encore. Mais néanmoins, le phénomène qu'on a pu identifier, c'est qu'il va y avoir un excès de communication dans lequel ces neurones, en communiquant trop entre eux, vont finir par faire la même chose au même moment. Donc vont osciller sur les mêmes fréquences, ouais. Et donc vont perdre, en fait, ce qu'il faut comprendre peut-être, qui est un peu difficile à saisir, c'est qu'une région cérébrale, non seulement elle a son anatomie, ses connexions anatomiques, mais là, on peut dire aussi son code. Et son code ne se limite pas à son anatomie. C'est-à-dire qu'une région qui va coder pour des visages, je prends un exemple, eh bien va avoir un code cérébral, un code comme un code informatique, si vous voulez, qui va faire que cette région ne code pas les informations de la même façon qu'une autre région. Eh bien, quand deux régions communiquent, si elles communiquent trop, elles vont perdre leur code singulier respectif et elles vont converger sur un code beaucoup plus appauvri qui va être le même et qui va faire que ces régions ont une communication excessive. Mais on pourrait donner une analogie de la discussion. Au lieu d'avoir une phrase complexe, elles vont toutes dire la même chose, pousser un cri en même temps, comme ça, vous voyez, quelque chose comme ça, et perdre leur
singularité.
Singularité et complexité, ouais, par cet excès de communication. C'est vraiment là, ça la pouvoir de la voilà, pierre angulaire.
Ce que vous décrivez au niveau microscopique, évidemment, puisque c'est l'analogie qui est au cœur de cet ouvrage, vous l'adaptez au fond à la société. Le système étant le même, dans un réseau de communication ultra développé, finalement...
Et c'est qu'on peut, une fois qu'on formule cette analogie, identifier... Donc je ne suis pas en train de dire que notre société est inconsciente, est en pleine crise d'épilepsie, mais elle présente plusieurs symptômes qui s'apparente à ce voyage immobile au niveau macrocosmique.
Avec un appauvrissement du contenu.
Hein. Appauvrissement du contenu, et également la conséquence de ça, c'est ce dont on disait un petit peu, c'est que dès qu'une crise d'épilepsie se propage dans des régions assez nombreuses du cerveau, et ça on a pu aussi le démontrer, eh bien il y a une perte de conscience. Et les symptômes de perte de conscience contemporaine, je crois que tout le monde les a à l'esprit. On pourrait dire que d'une certaine façon, la marche aveugle et dérégulée des marchés financiers, par exemple, ou la destruction de systèmes écologiques ou d'écosystèmes, ou l'appauvrissement en termes de langues qui disparaissent chaque année des cultures humaines, ou bien là aussi sur le mode d'appauvrissement culturel qu'il peut y avoir parfois. Ça, on peut dire que ça, ce sont des éléments qui sont autant de facettes de petits symptômes qui pourraient correspondre à ce qu'on entend par cette épilepsie du monde.
Oui. On va revenir avec vous dans un instant. Quelques messages d'abord. Lionel Lacache, Badre sur Twitter nous dit ceci. Est-ce qu'il y a une relation entre la dépression et l'épilepsie dans les deux sens, micro et macro?
Alors, c'est une bonne question. Traditionnellement, on considère que ce sont des pathologies, évidemment, qui n'ont pas les mêmes mécanismes. Mm-hmm. Par contre, évidemment, le sujet, le patient qui vit au niveau microcosmique individuel l'une de ces pathologies, notamment l'épilepsie, il peut présenter des troubles de l'humeur qui sont soit réactionnels à ce qu'il est en train de vivre, et c'est pas compliqué à imaginer. Quand vous avez un patient jeune qui a une épilepsie qu'on appelle réfractaire et qui voit sa vie quotidiennement handicapée par de très nombreuses crises d'épilepsie qui vont un peu l'entraver dans son épanouissement social, amoureux, professionnel, culturel, eh bien, évidemment, que ça va pas laisser indemne son humeur en réaction. Donc on peut souffrir des deux pathologies. Si vous voulez.
Quel est le tableau clinique d'ailleurs d'une personne qui est dans une crise complexe d'épilepsie, hein? Vous dites qu'il y a des crises simples et puis des crises complexes.
Alors c'est un point très important sur lequel on va peut-être revenir aussi après, c'est que quand une crise d'épilepsie, en gros, de manière un peu schématique, soit vous avez tout le cerveau qui commence, la crise commence par un embrasement de tout le cerveau, ou disons d'une masse qui est quasiment, on appelle ça les épilepsies généralisées. Voilà. Et typiquement, le patient va perdre conscience immédiatement. Mm-hmm. Et attention, perdre conscience, ça ne veut pas dire tomber dans les pommes. Ouais, ça peut vouloir dire rester debout, les yeux ouverts, avoir des automatismes, mais ne plus être conscient de ce qui se passe du tout. Et puis, vous avez des crises qu'on appelle des crises partielles. Mm-hmm. Alors, c'est facile à comprendre, c'est qu'en fait, au lieu que la crise correspondre à un embrasement de tout le cerveau ou de la masse, disons, globale du cerveau, vous avez une petite région qui commence à avoir cet embrasement. Donc ça commence dans une région particulière, partielle du cerveau. Et cette épilepsie partielle, si elle se propage, si la crise continue et se propage aux régions voisines, elle va pouvoir devenir partielle complexe. Et partielle complexe, c'est le moment très particulier où le patient va perdre conscience. Mmh. Il va rester comme ça et il commence par une crise dont il a au début conscience, dont il pourra d'ailleurs parfois se souvenir du début. Mais à un moment donné, la crise s'étend et elle devient partielle complexe. Elle peut ensuite secondairement se généraliser ou pas. Donc il y a des marches temporelles, spatio-temporelles des crises d'épilepsie différentes.
Et il y a un état qui précède justement cette crise, qui est très intéressant là aussi. Absolument. On va en discuter, on a plein de choses à te raconter dans la troisième partie. D'abord un message de François qui nous dit ceci, est-ce que la prochaine crise d'épilepsie de notre société n'aurait-elle pas pour nom la troisième guerre mondiale ?
Alors c'est une très bonne
question. C'est le Nouvel Obs qui titre aujourd'hui, est-ce qu'on ne serait pas déjà...
Alors écoutez, je pourrais pas, on dirait que j'ai demandé ces questions, mais parce que en réalité... comme ces crises d'épilepsie, je vous l'ai dit, leur symptôme principal, d'après moi, c'est la perte de conscience collective. Perte de conscience collective, c'est pas des individus, c'est de la société.
Ouais. Et il y a eu des exemples très fameux dans l'histoire.
Absolument.
Vous vous rappelez?
Absolument. Donc, ce qu'on appelle même les convulsions de l'histoire, en général, ce sont les périodes critiques, les plus récentes, le nazisme, le stalinisme, etc. Et je voudrais faire écho à une étude que je mentionne dans ce livre, très intéressante, qui s'intéresse au concept d'introspection. À quel point une société peut avoir conscience de ce qu'elle fait. Et quand vous faites une analyse dans Google, des textes de Google, une analyse automatisée du champ sémantique des textes sur des millions d'ouvrages, vous vous rendez compte qu'au XXe siècle, et c'est mes collègues argentins et américains qui ont trouvé ça, qu'en réalité, vous avez un effondrement du concept d'introspection au XXe siècle pendant les deux guerres mondiales, première et seconde. Donc effectivement, une guerre mondiale s'accompagne d'une perte de cette conscience collective, donc d'une perte du monde, à pouvoir non seulement agir, mais avoir un regard critique sur ses propres actions.
À ton cœur est sauvage, il ne répond pas, toujours comme un sage aux nouveaux appâts. Quand l'esprit amoureux dans des filets tombe, parfois c'est du sérieux, parfois, boum, c'est une bombe. Ouh, éternel est pris, éternel est pris. Ouh, du bois, tu n'es pas sorti, du bois, tu n'es pas sorti. Ah, ton corps est rebelle, il s'attache trop aux amours étincelles, un faux numéro. À l'affût d'une âme sœur et pas d'adolescente, pas d'enchérisseuse et pas d'inconstante. Oh, tu fais le difficile, tu chipotes et tu veux des filles au sourire facile qui te prennent pour un dieu. Si ton cœur est sauvage et ne répond pas, sur un ton plus sage, adieu, adieu à toi.
Elle s'appelle Clou, éternel épris à l'instant sur France Inter. Dans la tête au carré, un neurologue donc nous parle du macrocosme social et de la crise d'épilepsie. Une analogie au cœur de ce livre, L'homme raisonnable, chez Odile Jacob, Lionel Nakache. Les zombies figurent de la perte de conscience d'une société?
Oui, écoutez, vous disiez au début que c'était un ouvrage iconoclaste. Oui. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Et en fait, en science, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il faut garder une capacité de questionnement sur quelque chose qui vous paraît ne pas aller de soi et qui demande une interprétation, un décodage. Et donc, une des choses qui, moi, depuis quelques années, me fascine, c'est le succès, disons, planétaire de cet objet culturel assez récent, depuis les années, fin des années 60, du film de zombies. On commence avec Romero, etc. Et on arrive avec des World War Z, avec des productions très populaires, très générales. Et donc, vous avez, je sais pas, toutes les séries télé, Walking Dead, etc. Alors, ce qui m'a paru intéressant, c'est que dans l'analogie que j'essaye d'établir entre la perte de conscience du monde, il y a des limites à l'analogie. Une des limites, c'est que dans le cerveau, les neurones ne sont pas conscients individuellement. C'est le fonctionnement global du cerveau qui donne cette propriété qu'est la conscience subjective. Mais dans une société, évidemment, cette conscience collective, elle coexiste avec le fait que chacun des individus est lui-même conscient. Et donc, évidemment, lorsque je dis qu'une société peut perdre conscience, chacun des individus qui la composent, la plupart du temps, reste conscient. Une société où il y a une perte de conscience, chacun des individus reste un sujet comme vous et moi, conscient de ce qu'il fait. Alors, le point intéressant, c'est que j'ai réalisé que peut-être le succès des films de zombies, on pourrait le décrypter de la manière suivante. La population, disons, notre société, prend conscience qu'il y a une sorte de malaise. Ce malaise a à voir avec la perte de conscience collective. Et l'erreur de manipulation de mon analogie ici, implicitement, ça correspondrait à dire, eh bien, une façon de se représenter la perte de conscience du monde, c'est de commettre l'erreur de faire la perte de conscience des individus. Et un film de zombies, en fait, c'est une société dans laquelle les individus perdent conscience. Ils restent, en fait, les zombies, c'est le sujet qui, en fait, reste les yeux ouverts, capable d'avoir des productions, des comportements automatiques, etc., mais qui a perdu cette conscience de lui-même. Donc, de voir dans le succès du film de zombies l'idée de la crainte de la perte de conscience du monde, mais qu'on répercute sur l'individu. Et là, c'est la limite de l'utilisation de cette analogie, parce qu'en réalité, c'est très important de considérer qu'une perte de conscience collective s'accompagne d'un respect de la conscience individuelle, parce que la conscience individuelle est souvent la source du salut. C'est-à-dire, c'est par les individus, par des initiatives politiques ou culturelles, locales ou régionales, ou à petite échelle, qu'on va pouvoir des fois rattraper une situation.
La nuit des morts vivants.
Rester ici, c'est vraiment la dernière des choses à faire. Il y a plein de fenêtres partout, et toutes ces fenêtres, il faut que nous les renforcions pour qu'ils ne puissent plus entrer ici.
Ils n'ont aucune force physique, je vous l'ai déjà dit, j'en ai tué 3 que j'ai foutu dehors sans aucune difficulté.
Ils ont renversé ma voiture, je te l'ai dit, et ça aussi, ils l'ont fait sans difficulté.
Oui, alors, 5 hommes, il suffirait dans ce cas.
Eh ben, c'est bien pour ça. Seulement, ils ne seront pas 5, ni même 10, mais ils seront 20, 30, peut-être même une centaine à venir. Ils savent que l'on est là, ils passeront en force pour nous envahir.
S'ils sont aussi nombreux, ils nous trouveront, où que nous soyons cachés, vous êtes d'accord?
Il y en a une bonne dizaine qui approchent de la maison.
Ils sont déjà plus nombreux que tout à l'heure. Bon, je vais vérifier la porte de derrière.
Voilà, ils sont là, les zombies, derrière la porte. Mais heureusement, il y a toujours quelques consciences pour nous permettre de nous sauver de ce mauvais pas. Lionel Lacache, vous dites que justement, avant cette crise d'épilepsie, il y a quand même des signes avant-coureurs et il y a cette aura épileptique qui pourrait nous servir d'ailleurs à l'échelle macrocosmique d'alerte.
Possiblement, je pense qu'elle a deux facettes intéressantes. Alors juste l'aura pour préciser, la plupart du temps elle survient dans les crises justement qui sont des crises partielles, donc qui n'embrassent pas tout le cerveau. Donc le sujet commence par rester conscient de ce qui lui arrive. Il reste conscient mais il sent qu'il y a quelque chose de particulier et en réalité une des régions de son cerveau est déjà sujet à une crise d'épilepsie mais qui reste encore relativement localisée. Eh bien, chez ces patients, il va y avoir cet état subjectif, donc ils vont vivre consciemment un état qui sort de l'ordinaire, un état extraordinaire.
Mmh. C'est quoi? C'est un grand bien-être plutôt? Alors, c'est un état exalté?
Ça peut être les deux. Ça peut être il y a toujours une coloration souvent émotionnelle extrêmement forte, soit négative, soit positive. Mmh. Souvent, dans les cours de médecine, de neurologie, souvent je cite, moi et mes collègues, je peux la citer ici, il y a une citation d'un épileptique célèbre qui était Dostoïevski et qui écrit ce texte qui est assez remarquable et je crois qu'il donne une bonne impression de cela. Vous êtes tous en bonne santé. Mais vous ne pouvez pas vous douter du bonheur suprême ressenti par l'épileptique une seconde avant la crise. Je ne sais pas si cette félicité équivaut à des secondes, des heures, des mois, mais vous pouvez me croire sur parole, tout le bonheur que l'on reçoit dans une vie, je ne l'échangerai pour rien au monde contre celui-ci.
D'autant que c'est un état où la création artistique peut naître aussi.
Alors, elle peut naître. Alors, en général, elle ne va pas naître chez des sujets qui ne sont pas artistes, mais en tout cas, il peut y avoir une source d'inspiration et puis des états de, par exemple, d'hypersyntonie avec le monde, d'avoir l'impression qu'on est en une sorte de sentiment océanique du monde, en plus des déjà vécus.
Alors aujourd'hui, pour la société, quelle serait cette aura épileptique au fond ?
Alors, je me suis demandé si, en réalité, on ne pouvait pas utiliser dans le cadre de cette analogie, comprendre certains comportements émotionnels collectifs, comme dans des crises économiques, etc., comme aussi des réactions émotionnelles collectives massives, à une grande échelle, qui pourraient être des sortes d'auras microcosmiques. Et la dimension qui me paraît peut-être le phénomène le plus intéressant, c'est de questionner à l'aide de la lumière de l'aura épileptique, le retour du religieux. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait,
ce serait caractéristique selon vous d'un signal d'alerte.
Je pense que c'est pas compliqué de voir. En tout cas, que le phénomène existe et que dans ce 21e siècle naissant, et en paraphrasant Malraux, qui n'a apparemment pas dit le 21e siècle sera religieux ne sera pas, mais qui a déjà écrit beaucoup, même dès les années 50 sur ça, je pense que clairement, il y a un renouveau du fait religieux et qui, d'après moi, d'ailleurs, ne se manifeste pas que dans les formes extrêmes. Vous avez ça peut être puisé dans les formes religieuses classiques, dans des formes qui sont moins habituelles en Occident, par exemple, il y a un développement des spiritualités extrême-orientales, très importantes, mais également des spiritualités laïques, des tendances New Age. Donc, je pense qu'il y a effectivement une résurgence du fait et du sentiment religieux à une échelle de société, macrocosmique, et qu'on peut peut-être y lire ici un équivalent de cette aura épileptique macrocosmique.
Donc ça devrait nous alerter.
Alors ça devrait faire deux choses. Un, nous alerter et donc prendre des mesures
avant la grande crise.
Avant la grande crise peut-être. Ouais. Mais surtout aussi, l'autre facette sur laquelle j'aimerais intervenir, c'est que je ne pense pas que cette aura soit nécessairement négative. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en tout cas au niveau microcosmique de l'individu, comme chez Dostoïevski, mais comme chez n'importe qui est épileptique, on peut parfois avoir dans l'aura une source de créativité, une source de perception de l'existence, et peut-être que certaines des créations artistiques des siècles passés correspondent à ce sentiment religieux qui va être transcendé pour produire quelque chose qui peut être en lui-même intéressant. Donc je pense que face à l'aura, il y a ces deux réactions à avoir.
Allez, dernier courriel de Benoît sur Twitter. Quelle analogie feriez-vous entre un lien système nerveux digestif, système nerveux central et la malbouffe et l'épilepsie sociétale ?
Une jambe, en deux minutes, c'est difficile. Ça fait beaucoup de concepts. Alors, le système nerveux digestif, c'est un des grands nouveaux partenaires, disons, de l'exploration à la fois des neurosciences et du psychisme. Je dois dire que je ne connais pas bien le système nerveux digestif. Par contre, le point important, c'est que ce système nerveux, je ne pense pas qu'on ait d'éléments pour penser qu'il puisse être le siège de processus cognitif au sens propre du terme. Par contre, que sa complexité puisse interagir sur le système nerveux central et donc avoir une influence profonde sur des états thymiques, sur des états cognitifs, ça c'est clairement le cas.
Alors Lionel Lacache, pour terminer, en 1 minute 30, hélas, comment prévenir l'épilepsie mondiale ? Alors quel remède justement inspiré par ceux que vous donnez aux personnes épileptiques ?
Voilà, neuro-inspiré, oui. La première chose, c'est qu'au niveau de l'individu, quand on souffre d'une épilepsie, il y a trois choses principales. Il y a ce qu'on appelle les mesures d'hygiène de vie, pour éviter la survenue des crises. Eh bien, on peut, au niveau d'une société, dès lors que l'on cherche, je me rends compte que ça correspond en gros, pour aller vite, au renforcement, au respect et à la valorisation des structures intermédiaires dans une démocratie. Ça veut dire l'éducation, la justice, la protection des droits, etc. Donc il y a premièrement, protéger la démocratie. Alors ça peut paraître banal, mais le fait de tomber sur ce message banal par un chemin totalement inhabituel, ça prouve que ce message est très important. Deuxièmement, il y a des médicaments. Alors j'essaie de montrer, j'aurai pas le temps de le développer là, mais que l'équivalent des médicaments, je pense qu'il n'est pas directement applicable, parce que les médicaments c'est coercitif, les neurones ne choisissent pas de recevoir tel ou tel médicament, donc je pense qu'il y a plutôt des mesures volontaires à développer, par exemple cette notion de Shabbat digital, ça veut dire de pouvoir se déconnecter de temps en temps, qui a été proposée, non pas d'ailleurs par on dit Shabbat, mais ça n'a rien de juif particulier, c'est plutôt l'interruption hebdomadaire, donc on pourrait s'inspirer sur le fait de se couper.
Une cure numérique.
Ouais, en tout cas, non pas pour supprimer le numérique, mais pour arriver à réinvestir un temps différent. Et puis ensuite, il y avait les solutions chirurgicales. Et j'essaie de montrer que celles-ci ne s'appliquent pas.
Ça fonctionne moins bien.
Et que par contre, au contraire, je suis plutôt... alors, j'aurais pas le temps de le développer. Mais pour une sorte de suppression des clivages entre les sociétés, sans perdre pour autant, c'est ça le point important, c'est qu'il faut pouvoir être en communication, mais sans perdre nos différences. Voilà. Et c'est possible. Bon. C'est une utopie, mais qui peut être celle que nous devons visiter.
Et il faut laisser au lecteur le plaisir de... lire ce que vous proposez justement, Lionel Lacache, ce livre « L'homme raisonnable » chez Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui dans La Tête au Carré.